Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Sarah Pagin, bonjour.
Bonjour Florian.
Vous êtes cantatrice, vous allez vous produire hein, dans le courant de cet été et puis cet automne dans notre région, ça sera le Sion Festival pendant l'été, l'Opéra du Rhône ensuite avec un Faust de Gounod hein, dont vous interprétez le rôle de Marguerite, le premier rôle, on va en parler évidemment. Vous m'avez donné rendez-vous à Cuilly, avec ce spectacle magnifique des montagnes du Chablais au loin de la France et les vignes bien sûr. Pourquoi cet endroit ?
Alors je suis très attachée à cette petite ville parce que mon père y a vécu pendant des années, il m'en avait toujours parlé avec des étoiles dans les yeux et puis on a décidé d'y emménager quelques années, on a vécu 3 ans ici avec mon mari et mes enfants et donc j'ai eu la chance de découvrir cet endroit que je me suis approprié et j'ai connu le festival aussi, le Lavo Classique dans lequel j'ai chanté 2 années consécutives et je suis toujours liée à cet endroit parce que je fais encore partie du comité des amis du Lavo Classique.
J'ai même vu que vous aviez participé à un jury. Hein.
Oui, c'est vrai. Aussi, ouais.
C'est une consécration quand on se met à juger les autres, non ? Dans un métier artistique.
Oui, c'est très délicat et en même temps, on essaye d'être juste en étant bienveillant. Mais c'est un exercice très intéressant. J'ai bien aimé.
C'est un endroit qui vous inspire. Quels sont vos... Vous habitez à Genève aujourd'hui, hein, c'est la ville, alors c'est pas la mégapole européenne, mais quand même c'est la grande ville. Vous avez besoin de sortir un peu, vous avez besoin de vous ressourcer, de nature.
Oui, moi j'aime beaucoup la nature et d'ailleurs on était tellement en manque de nature qu'on a acheté un petit moulin en Bourgogne, complètement perdu. Et donc dès qu'on peut on va là-bas. Ou on revient à Cuilly aussi passer des week-ends avec nos amis. Donc effectivement, j'ai vraiment besoin de moi de la montagne, du lac et de verdure.
Si on vous dit chanteuse, vous prenez ? Ou il faut dire cantatrice ?
Non, je préfère chanteuse parce que je ne chante pas que. Mais non, mais parce que je ne chante pas que du lyrique en plus. Donc moi, j'aborde beaucoup de répertoires différents. Et cantatrice, on imagine tout de suite la Castafiore ou une voilà. Et en fait,
La Castafiore, elle va nous suivre un petit peu.
Oui, elle va nous suivre. C'est pour ça que j'en parle. Et en fait, je dirais plutôt chanteuse ou éventuellement chanteuse lyrique qui s'ouvre à d'autres répertoires, mais chanteuse.
Comment ça vous est venu, cette affaire ? Famille musicienne, hein, votre frère est pianiste, le chant, l'idée de se produire sur scène, vous vous souvenez de ça ?
Alors, mes deux parents sont des grands violonistes, donc j'ai grandi dans le milieu de la musique classique et en fait, tout naturellement, j'ai fait de la musique. Après, moi, je n'avais pas trop envie d'être chanteuse. C'est ma mère qui m'a poussée à faire des cours de chant. Moi, je voulais être pilote d'avion de chasse. Aucun rapport, mais j'adore les avions de chasse.
Et après, petit esprit guerrier, comme ça.
Oui, voilà. Mmh. Et puis, on a une belle aviation ici en Suisse. Hein. Une belle aviation militaire.
Mais ils ne peuvent pas accélérer complètement, sinon ils sortent du pays.
Oui, c'est ça. Mais non, pour être sérieux. Non, je voulais vraiment être pilote d'avion de chasse. Et après, ma mère m'a dit, allez, fais quand même des cours de chant, tu verras. C'est chouette, donc j'ai vraiment commencé pour lui faire plaisir et en fait il s'avère que j'ai adoré et que j'adore le moyen en fait qui me permet d'exprimer mes sentiments ou une émotion ou une théâtralité sur scène. Le moyen chant me plaît beaucoup.
C'est la qualité des professeurs, j'imagine, est déterminante, surtout quand on y va un petit peu à reculons comme ça.
La qualité des professeurs est déterminante et puis l'entourage.
Je vous pose la question parce que vous donnez vous-même des cours de chant.
Oui,
hein, ça doit...
oui. Mais en fait, j'ai été super bien entourée. J'ai eu des déceptions comme tout le monde. Et puis, j'ai eu des professeurs extraordinaires, dont Martine Abella, qui était mon professeur à la Haute École de Musique de Genève. Et que je remercie du coup. J'en profite pour le remercier pour tout ce qu'il m'a donné, appris sur la technique, mais aussi sur le corps.
C'est particulier, hein, la voix comme instrument, c'est une partie du corps. Un pianiste, le pianiste il range pas son piano, le piano reste à l'endroit, mais enfin un violoniste range son violon et puis vit. La voix elle vous accompagne tout le temps, il faut la protéger tout le temps, vous avez une écharpe, j'en étais sûr, hein, un chanteur, une chanteuse d'opéra vient avec une écharpe, c'est évident. Vous êtes dans ce concept de sauvegarde de la voix, quoi qu'il arrive, il y a une peur un peu constante.
On est tout le temps connecté à sa gorge, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un courant d'air, moi, je ne parle pas. Quand je vais en soirée, que c'est fort, je ne parle pas. Quand il y a la clim, je fais très attention. On est tout le temps...
Vous faites 12 heures d'avion pour aller au Canada faire des concerts.
Voilà. Je ne parlais pas dans l'avion.
C'est un pari. C'est pile ou face.
Non, je ne parle pas. Et puis, on a des super maintenant appareils à vapeur qu'on met sur le nez pour humidifier les cordes vocales dans les endroits secs comme l'avion, justement. Et j'ai toujours des bonbons à la sauge dans mon sac. Enfin, c'est vrai qu'on est tout le temps connecté à notre corps et c'est vraiment une discipline, en fait, d'être...
Bon, pour autant, la petite crève de saison, le nez qui coule, les oreilles bouchées, ça arrive. Quand on a un concert 3 jours après, vous avez quoi ? Vous avez des méthodes ? Vous n'allez pas me dire du citron et du miel, parce que ce serait trop facile.
Mais si, ça marche très bien. Le gargarisme à l'aspirine. Et puis, il y a un truc qui marche très bien, c'est l'adrénaline. Et en fait, j'ai eu des crèves monumentales. Et une heure avant le concert, je ne pouvais pas chanter. Et j'arrive sur scène et je chante. C'est inexplicable.
Ah ouais, ça, c'est le miracle de l'adrénaline. Hein.
C'est l'adrénaline, en effet, c'est dites, incroyable. Ouais. Mais... effectivement, quand on a un rhume, on est très stressé avant une prestation. Très stressé.
Bon, c'est pas du sport, c'est de l'art, mais quand même, il y a une dimension de maintien de la forme, hein, quel que soit le contexte. J'ai vu une interview de vous, un bout d'interview pendant le Covid, hein, où justement, les échéances, c'était fini, il n'y avait plus de concert, il n'y avait plus rien. Par contre, il fallait continuer à bosser sa voix. On ne peut pas la laisser de côté. Hein.
Ah ben non, c'est un muscle qu'il faut entraîner.
Ouais, c'est ça.
Et il n'y a pas que les cordes vocales, c'est tout l'appareil respiratoire qu'il faut travailler. Donc, en fait, c'est une sorte de sport intérieur.
Mmh. Vos proches sont... C'est bon ?
C'est-à-dire ?
Je sais pas, ils ont des boules caisses. Ils ont...
Mais alors, contrairement à ce qu'on pense, les meilleurs exercices pour la voix sont des exercices...
Ils sont pas forcément sonores.
Exactement, c'est exercices silencieux. Donc, vraiment, là, je ne vais pas vous faire d'exemple parce
qu'on est dehors.
Bah non,
et c'est silencieux, en plus, on est à la radio.
Non, mais ça fait des choses comme ça. Et, et on n'est pas obligé de gueuler pour...
Bon, voilà. J'élimine l'image de vous vocalisant dans votre salon.
Non, oubliez. Qui crie sur son mari et ses enfants, non, c'est pas ça.
Bon, vous aimez, j'ai vu de vous qu'il y a déjà un petit moment, hein, vous rêviez de jouer Daphnis. Je suis Daphnis et Chloé de Ravel, moi c'est Péléas et Mélisande de Debussy. Vous rêviez d'interpréter ce rôle-là, ce qui vous place pour moi, et je l'ai confirmé ensuite en faisant des recherches sur vous, dans cette musique française du début du XXe siècle que j'aime tant. Pourquoi ce moment-là, qui sont des opéras moins connus que Verdi, moins connus que Puccini, moins facile aussi peut-être, hein, parce que moins souvent monté, etc.
J'adore cette question et je vous remercie de l'avoir posée. Alors moi, effectivement, j'ai un goût pour la musique française du début du XXe. Donc Francis Poulenc, pour moi, c'est mon héros absolu, je l'adore. Poulenc, Debussy, Ravel... Et alors j'aime cette musique pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me sens très proche de la musique en elle-même. Elle est déjà donc plus proche dans le temps, puisque c'est pas, comme vous avez dit, Verdi, Puccini, il y a 200, 300 ans. Là, on est vraiment il y a 50 ans, pour Poulenc notamment. Et puis surtout, c'est la langue française, moi, qui me parle. C'est ma langue et j'ai fait des études de lettres et de littérature. Et je suis amoureuse de la langue française. Et donc, la valoriser par la musique, je trouve ça exceptionnel. Et j'ai même fait mon master sur la prononciation du français dans le chant. Donc, j'ai vraiment une passion pour la langue française. Et des compositeurs comme Francis Poulenc, par exemple, ou Ravel ou Debussy, l'ont valorisé dans la musique. Ils mettaient en valeur le poème ou le texte avant la musique, qui était un support pour le texte.
Alors, moi, j'ai des connaissances limitées, mais comme vous, j'adore cette période-là. Et il y a un vrai accaparement de la poésie, justement. Ils ont mis en onde les surréalistes. Ils ont été vers une poésie de leur temps, hein,
c'est ça.
Versus des livrets d'opéra, etc., des histoires. Il y a quelque chose d'immédiat. Dans l'expression, c'est aussi des pièces courtes souvent.
Ce sont des pièces courtes et
des chansons.
Ouais, j'aime la sensualité en fait de la langue française quand elle est chantée, parce qu'on dit souvent que c'est une langue plate qui n'a pas d'accent, mais quand elle est chantée, on peut en faire tellement de choses. Et puis c'est plus facile de chanter dans une langue qu'on maîtrise parfaitement. Mmh. Quand on me demande de chanter en russe, c'est un peu plus compliqué. En général, j'esquive ou je propose autre chose. Parce que pour moi, c'est trop important de comprendre la structure d'une phrase ou de comprendre l'importance d'un mot dans le texte. Ce qui est moins important dans l'opéra, le grand opéra italien, la musique passe presque avant le texte. Et dans la musique française ou dans le lead ou dans cette musique-là, le texte prime sur le... Mmh. Et d'ailleurs, les compositeurs et les poètes collaboraient ensemble.
Oui, oui, ils faisaient partie de la bande. Hein.
C'est ça.
C'était le climat parisien.
Exact, dans les salons.
Des années folles. Voilà, merveilleuse époque, merveilleuse musique. Vous avez mis en reflet Satie, hein, avec tout un spectacle. Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est un monde de la musique classique qui est un peu plus difficile. Non pas techniquement, ça j'en sais rien, mais en tout cas, qui est moins pimpé. Quoi, moins,
oui, c'est voilà, plus élitiste.
C'est plus
peut-être.
Difficile d'avoir des spectacles qui se montent autour de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel que d'Aïda ou de Carmen, quoi. Ça a une implication dans votre carrière ?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais ça m'est égal, en fait. C'est pas grave. Mmh. Je préfère faire des choses que j'aime, quitte à plaire à un public un peu plus restreint, à une niche, mais quelque chose que je fais, je pense, bien et qui me corresponde. C'est pas grave si je fais pas... Il y a beaucoup de chanteuses qui savent chanter du Mozart et du Verdi parfaitement. Et je me dis que c'est pas grave. Si je préfère faire ce que j'aime.
C'est bien parce que je décèle que c'est vous qui choisissez vos choses, vos passions. Et moi, j'avais l'impression que c'est souvent la voix qui décide. Hein. On est coloratour, on va aller vers telle musique. On est soprano lyrique. Vous êtes soprano, hein, on l'a pas dit au début de cette émission, soprano. On va aller vers d'autres œuvres. Donc là, vous, votre voix correspond à vos goûts ou bien vous avez dû la forcer un peu ?
Non, par chance, ma voix correspond à mes goûts. Mmh. Absolument. J'ai beaucoup de chance pour ça. Mais c'est là où vous avez aussi raison, c'est que je choisis souvent aussi effectivement mon répertoire. Là, par exemple, à Sion, donc pour le festival Tibor Varga, on m'a dit, est-ce que tu peux nous monter un récital ? Le thème de la saison, c'est danse et virtuosité. Donc effectivement, j'aurais pu choisir du Monteverdi et du Lully et de la musique ancienne, ou je ne sais pas. Et moi, j'ai choisi Massenet, Bizet, Poulenc, autour de la danse. Donc il y a des valses, des tangos, Kurzweil, j'ai choisi la période que j'aime effectivement et qui me permet aussi, parce que c'est un peu ma spécialité aussi, de faire du crossover et de me proposer du jazz et du musical.
Crossover, c'est pas un sport, donc on est d'accord. Mmh. C'est pas un sport, le crossover.
Non, c'est pas un sport. Le crossover, c'est de mélanger les différents répertoires et types de musique.
Ça, c'est intéressant. On y reviendra dans la deuxième partie. On arrive gentiment à la fin. Mais non, il n'y a pas de problème. l'éclectisme, hein. Allez. Choper comme ça des trucs qui vous plaisent. J'ai vu que vous aviez repris, c'était peut-être un petit peu ancien déjà, mais Depeche Mode par exemple, en duo.
Oui, moi j'adore. On a fait donc le Kadish de Ravel, où on a donc repris de la musique française et on l'a électroïsé avec ce DJ. Et puis on a repris effectivement un morceau de Depeche Mode où à la fin je mets quand même des vocalises lyriques et moi j'adore le mélange des genres. J'adore ça. Je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, de s'ouvrir à d'autres publics. Justement, vous parliez du côté un peu élitiste de la musique française, mais de faire connaître cette musique-là à d'autres personnes, c'est un très bon moyen.
On va rester sur cette notion pour la deuxième partie de cette émission qui arrive tout de suite.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Sarah Pagean, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parlait de curiosité, d'aller dans les différents genres. C'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de parler souvent avec des artistes de musique classique, pas que d'ailleurs. Hein. C'est cette nouvelle ouverture au monde, de ce monde qui a été très sclérosé, hein, très catégorisé. Je parlais tout à l'heure des voix, vous êtes coloratour, vous allez faire du Mozart, et puis c'est tout. Je ne sais même pas si c'est ça.
Si, c'est bon, c'est bon.
C'est bon. Mais voilà, c'est complètement fini ça. Aujourd'hui, on valorise au contraire une chanteuse, puisque c'est votre cas, qui va aller tutoyer d'autres genres, se les approprier.
Alors ça convient pas à tout le monde et ça va pas avec toutes les voix. Moi j'ai la chance d'avoir cette voix qui peut aussi aller là-dedans et moi ça me plaît. Moi j'écoute beaucoup de pop à la maison, de rap depuis toujours, hein, de la soul, du jazz, et du coup c'est de la musique qui me plaît beaucoup et si alors du coup je peux mélanger toutes les musiques que j'aime et faire des spectacles avec ça, alors bingo.
On va parler un petit peu de ces dates qui approchent. Hein. Je vais les donner, je les redonnerai à la fin de cet entretien. Donc le Sion Festival, ça sera le 15 août, votre jour à vous, avec un concept 24 heures de musique dans les rues de Sion. Donc il n'y aura pas que vous, hein. C'est pas un marathon pour votre voix, heureusement. J'imagine que ça serait difficile. Mais voilà, vous serez dans les rues. C'est un univers qui vous plaît, puisqu'on parlait après tout de curiosité des genres. Il y a aussi une curiosité des lieux. On n'est pas que dans un opéra avec des sièges en velours.
Non, exactement, des lieux, des arts. On peut aussi mélanger différentes sortes d'art, de la peinture, de la lumière, des chorégraphies. Et là, effectivement, l'idée est sympathique. C'est-à-dire que où qu'on aille, il y aura des concerts partout. Et là aussi, dans le programme, je mélange un peu les genres aussi.
Marguerite.
Oui.
Voilà, vous allez jouer Marguerite dans le Faust de Gounod. Ça sera au mois de novembre. Comment ça se passe quand on décroche un rôle comme ça? On s'y prépare longtemps avant. Quel est le processus?
Alors, honnêtement, je suis partie à l'audition sans grands espoirs. Voilà, parce que je ne m'attendais pas du tout à être prise, mais je me suis dit, j'aime trop ce rôle, je vais tenter le tout pour le tout. Et quand ils m'ont dit qu'ils m'avaient choisi, mais alors j'étais dans un état d'excitation énorme. Et du coup, c'était il y a quand même un an. Et on a commencé déjà à travailler en avril, on a déjà une première répétition. Et oui, évidemment, comme c'est un rôle long, il faut se l'approprier. Et donc, c'est bien de commencer à travailler bien en amont pour intégrer corporellement, en fait, le personnage et le rôle. Parce que la voix, elle a besoin de répétition. Donc, à force de le faire, après, une fois sur scène, j'aurais plus trop besoin de penser à la voix et je pourrais vraiment penser à mon personnage et à ce que je joue. Donc, effectivement, l'idéal...
C'est cette dimension de l'opéra, hein. Il faut être actrice.
Il faut être actrice, ouais. Et moi, j'adore ça. Moi, j'ai...
Alors, c'est une vieille image, hein. Ça fait longtemps que c'est plus le cas, mais on a cette image de la Castafiore, justement, hein, de ces cantatrices massives, un peu figées, comme Pavarotti, d'ailleurs, hein, pour qu'on resterait sur les femmes, figées au milieu de la scène, parce que difficulté de bouger, et où seule la voix comptait, c'est fini, ça. Maintenant.
C'est fini, alors il y a encore des maisons, il y a encore des chanteurs qui sont un peu comme Sarah, et moi je n'aime pas du tout ce genre d'univers. Moi j'ai besoin que ça bouge, que ce soit vivant et qu'on comprenne l'état d'esprit du personnage. C'est ça qui est intéressant finalement dans l'opéra. Juste une voix, moi ça ne m'intéresse pas personnellement. Ce que je veux aller voir, c'est une histoire, c'est un univers. Et
votre rôle là, on est tout début du mois de juin, vous le connaissez déjà par cœur? Enfin, vous l'avez?
Pas par cœur, mais je le connais du début à la fin.
Ouais. Et tous les matins, vous vous entraînez à rire devant votre miroir?
Non, je préfère m'entraîner à être belle alors, du coup.
Oui, ça va, écoutez, ça allait de soi dans ma question. C'est pourquoi on a rigolé avec la Castafiore, c'est que c'est ça, hein. Ah, je ris de me voir si belle en
exactement.
Ce miroir, c'est tiré de Faust de Gounod.
Oui, c'est au premier acte.
Grâce à Hergé, c'est quand même une des phrases d'opéra les plus célèbres du monde.
Mais c'est exactement ça, quand tout le monde me dit « Ah, tu fais quoi ?» J'ai dit « Je chante Faust de Gounod », les gens ne savent pas, et j'ai dit « Ah, mais si, c'est la Castafiore dans Tintin », et tout le monde dit « Ah, mais oui !» Donc voilà, mais ils seront très contents de venir voir en novembre, donc le mi-novembre, 9, 12, 14 et 16 novembre... à Saint-Maurice, de voir qu'en fait je ressemble pas du tout à ça et que l'opéra tout entier est beaucoup plus complexe que juste cet air-là.
C'est un long chemin tenir un rôle d'opéra, hein, j'imagine, par rapport à une série de concerts. On parlait de vos concerts Satie, par exemple. Alors ça demande une préparation également. Je ne sais pas, vous étiez accompagné par un piano, je pense. Donc il y a une complicité immédiate entre deux musiciens. Là, il faut d'abord travailler son rôle. Il faut, j'imagine, parler avec le metteur en scène, le voir, etc. Puis après, il faut apprivoiser l'orchestre qui va vous accompagner, les autres chanteurs évidemment. C'est tout un bateau, cette affaire.
Eh ben écoutez, moi je trouve ça à la limite plus facile qu'un récital, parce qu'on a tellement de répétitions, on a tellement de temps avec les musiciens, justement avec le metteur en scène, qu'il se crée une sorte de complicité de travail qui est tellement fait en amont avec le nombre de répétitions qu'en fait ça devient assez naturel, en fait. Alors qu'un récital, et puis l'autre chose, c'est que tout ne repose pas sur vos épaules. Il y a l'orchestre, il y a d'autres chanteurs, etc. Alors qu'un récital, on est toute seule pendant une heure, sans décor, sans costume, sans...
Les robes sont particulières quand même.
Ouais, les robes sont belles, mais je veux dire, à part ça, je dois tenir une heure en haleine, un public, toute seule pendant un récital. Et ça, je trouve que c'est quand même plus challenging et plus difficile que de faire partie d'une production après. C'est autrement difficile, si vous voulez, mais moi je trouve que le récital solo est quand même plus difficile.
C'est quand même un truc, hein, le solo versus le versus ou enfin en face du communautaire, hein, de quelque chose d'un travail commun.
Oui, c'est ça. C'est pas la même approche parce que, comme je vous ai dit, tout tient sur vos épaules en fait. Si vous êtes pas au top ce jour-là, le concert est mauvais ou médiocre. Alors que, bon, ça m'est jamais arrivé. alors que si vous êtes dans une super production avec plein de chanteurs, ils sont tous formidables. Si un soir vous êtes un peu moins bien, la soirée peut quand même être réussie.
Aujourd'hui, vous êtes dans une deuxième carrière. Hein, vous me l'avez confié tout à l'heure. Alors, il y a eu le Covid, bien sûr, hein, qui a donné un coup d'arrêt à toutes les chanteuses, tous les chanteurs, tous les artistes, hein, dans nos pays et probablement dans le monde. Vous avez senti ce moment-là, ça a été une difficile à remettre en route.
Alors moi non, parce que j'ai eu des soucis avant ça, et donc ma carrière s'était un petit peu arrêtée déjà avant. Donc j'ai eu des petits soucis sur la voix qui m'ont fait arrêter avant. Et puis, comme ma voix est revenue petit à petit, j'ai plutôt profité du Covid, déjà pour faire des enfants, et puis pour faire ces morceaux...
On s'occupe comme on peut.
On s'occupe comme on peut.
Quand on est confiné, voilà.
Et puis pour faire ces morceaux à Las Vegas avec le DJ, justement, et de faire ces montages électro-lyriques. Et de réfléchir à ce que je voulais faire finalement plus tard. Parce qu'on grandit et on fait des études dans une voie assez classique finalement. Et ces périodes-là, enfin moi, elles m'ont permis de me reconstruire et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire.
On est dans un petit moment de pudeur, vous et moi. Hein. Moi, je n'ai pas envie de vous obliger à le dire. Vous
mais
hésitez
si, allez-y, allez-y.
Mais comme vous avez mis le pied, sans que je vous y force, je vais y aller. Vous avez perdu votre voix. Hein.
J'ai perdu ma voix.
C'est un truc incroyable. Vous avez une trentaine d'années et la carrière était florissante, ça émergeait, c'était l'enthousiasme et puis pouf, ça s'arrête.
Oui, j'ai subi une opération qui s'est mal passée. Et puis, je me suis réveillée sans voix. Voilà, c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Et je me suis réveillée sans voix et on m'a dit « tu chanteras plus jamais ». Donc, j'ai dû faire le deuil d'une carrière. J'ai fait autre chose. Et miraculeusement, parce que j'ai rencontré des super médecins qui m'ont réopéré, et j'ai rencontré des orthophonistes et des professeurs de chant qui m'ont aidé à reconquérir et à réassouplir mes cordes vocales, ma voix est revenue. Et elle est revenue plus forte, plus dense et plus vivante qu'avant. Maintenant, je la maîtrise, je pense, parfaitement. Et donc en fait c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres quoi. C'est vraiment j'étais au fond du trou, j'étais déprimée, je pouvais plus rien faire et j'ai réussi.
On imagine facilement une quinzaine d'années de travail acharné, peut-être plus d'ailleurs, hein. Je sais pas à quel âge vous avez commencé de façon
vers 17 ans, 16-17 ans, oui, une douzaine, ouais. Ouais. Les études, c'est très difficile,
les premiers enthousiasmes,
ouais. Non, c'est très difficile de s'arrêter comme ça.
Vous en avez tiré une
force? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Et aujourd'hui, peut-être que je suis là où j'en suis grâce à ça. Et je n'espérais pas tant il y a 10 ans. Et maintenant, je suis tellement heureuse de chaque concert que j'ai. Chaque fois que je suis sur scène, je jubile de bonheur parce que je suis là où je suis. Et qu'il y a 10 ans, je ne pensais pas être là où je serais aujourd'hui.
Miraculé.
Peut-être.
Je n'ai pas vu grand-chose de vous sur la plateforme majeure verte, Spotify, puisque j'hésitais à citer le nom, mais voilà, je l'ai fait. C'est un choix.
Que j'ai pas de grand chose dessus.
Voilà. Il y a peu d'enregistrement ou...
En fait, j'ai donc les morceaux avec le DJ et puis on a fait un disque de Samuel Ducommun avec, quand j'étais à la Haute École de Musique de Genève. On a enregistré un disque qui est normalement aussi dessus. Mais c'est juste que, non, mais pas justement, comme tout s'est arrêté pendant un moment, j'ai pas eu l'opportunité de faire d'autres choses. Mais là, je suis en train de réfléchir justement à faire d'autres collaborations avec d'autres DJ et de faire plusieurs morceaux pour ensuite en faire un album. Et bien, je réfléchis encore, c'est tout ça, c'est encore au stade de... Non, c'est juste que on me l'a pas proposé, c'est pas été... comme je vous ai dit, en fait, au moment où ma carrière décollait, ça s'est...
Ça s'est arrêté.
Il
n'y
a pas,
de...
et puis voilà, et maintenant, je repars de loin finalement. Donc tout ça va peut-être venir, mais petit à petit. Et les choses que je veux faire moi, je dois les construire moi en fait. Donc...
ce monde en Suisse romande, puisque c'est là que ça redémarre pour vous. Alors vous voyagez aussi, hein. Je me souviens quand je vous ai appelé pour vous inviter, vous partiez à l'autre bout du monde. Vous étiez proche de
Moi, j'étais à Montréal.
Et c'est quelques dates dont nous avons parlé. Sion Festival, Saint-Maurice avec l'Opéra du Rhône, un rôle-titre. C'est des petites pierres comme ça qui s'accumulent. Et puis, il y a le bouche à oreille, le monde. C'est intéressant pour nous, par exemple, de savoir est-ce que le monde lyrique s'intéresse à l'Opéra du Rhône, qui est un opéra périphérique, quoi.
Ah bah écoutez, j'espère. En tout cas, les gens ici en Suisse romande connaissent la maison et j'espère. Parce que c'est chouette de valoriser de la musique classique en Valais. On est content.
Merci à vous,
Sarah
Pagin, pour ce moment d'interview. Je vous souhaite le meilleur, évidemment.
Merci beaucoup.
Et puis, je vais rappeler les dates. Non, vous allez les rappeler. Moi, je me souviens du Sion Festival. Donc ça, c'est la journée des 24 heures musicales. C'est le 15 août, dans les rues de Sion, quelque part. On vous trouvera, on vous entendra de loin, sans doute. Et puis, l'Opéra du Rhône au mois de novembre.
Octobre, novembre, oui. Et puis, en septembre, on sera à Genève, au Théâtre Pitof. On reprend les masterclass de Maria Callas, où je joue et je chante avec Maria Métral sur cette pièce de Terence McNally qu'on reprend, puisqu'on l'a jouée déjà, ça fait 2 ans qu'on la joue, et on la reprendra aussi à Lausanne tout le mois de décembre au Pulhof, Théâtre Pulhof. Voilà.
Merci à vous.
Merci.